ça peut être le travail, ça peut être tous les gestes qu'on fait. Aimer votre corps, remercier, ça fait partie de la discipline du yoga. Aimer, ça veut dire c'est une qualité d'attention que nous portons à votre corps, à notre corps, à notre souffle. Ça veut dire l'absence d'attention, c'est l'absence d'amour. C'est pour ça qu'on a beaucoup de tensions. Si vous ressentez des tensions dans le corps, ça veut dire qu'il n'y a pas d'attention, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'amour. Donc, amour, il faut redéfinir. L'amour, c'est pas faire des bisous. Amour, c'est écouter. Donc, écoute, c'est un acte d'amour. C'est penser que ce moment que nous allons passer, c'est pas simplement écouter, et aussi partager les impacts que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et notre sujet, c'est rien d'autre que soi-même. Yoga, c'est l'étude de soi. L'étude de soi. Soi Atyaya. Yoga, c'est rien d'autre que ce démarche pour se connaître. Donc, pourquoi il y a cette importance sur cette connaissance de soi, parce que notre vie n'a pas de sens si on ne sait pas qui on est. Vous pouvez posséder des choses, mais vous ne connaissez pas qui possède. Donc l'objet de possession n'a pas de sens. C'est pareil pour la connaissance. Si vous connaissez plein de choses que vous ne savez pas qui vous êtes, dans ce cas, la connaissance n'a pas d'importance. Donc la connaissance de soi, on appelle la science de science, Brahma Vidya. Donc Brahma Vidya, ça veut dire la connaissance de connaissance, ou le savoir de savoir. C'est parce que c'est fondamental. Cette importance n'est pas donnée par toutes les cultures, en tout cas notre civilisation moderne, soit Occident, Orient, peu importe. Le mouvement moderne ne donne pas absolument aucune importance sur la connaissance de soi. Même la psychologie, ça ne s'intéresse pas plus que le comportement intérieur ou extérieur. Donc, la connaissance de soi, c'est vraiment c'est l'étude de conscience. Étudier la conscience, ça pose des difficultés au niveau des méthodes scientifiques, parce que la conscience, on ne peut pas mesurer. On peut mesurer les ondes des cerveaux, on peut mesurer plein de facteurs dans notre corps, mais on ne peut pas mesurer la conscience. Parce que conscience est immesurable. Donc, quand vous êtes sur le tapis, quand vous déroulez le tapis chaque matin, ou le coussin pour s'asseoir, pour regarder ce qui se passe dedans. Et en fait, la conscience s'intéresse à la conscience. Donc, c'est une démarche personnelle. Quelquefois, ça arrive spontanément pour certaines personnes. Et ils vont entrer dans des mystères de l'être. Donc, ça arrive quelquefois. Il y a des gens, des enfants, souvent, dans certaines âge particulier, spontanément, quelquefois le yoga, il dit, c'est parce que c'est l'héritage d'autres vies, peu importe la raison, quelquefois au lieu de tourner notre attention vers l'extérieur, on va diriger vers l'intérieur, spontanément, parce que si je peux regarder, je peux regarder aussi comme ça. Ça suffit de tourner l'attention à 180 degrés, donc ça arrive quelquefois, donc l'entourage, notre entourage peut-être qui ne comprend pas cette démarche. Donc on se dit, oh, est-ce qui se passe pour mon enfant, il est absent. Et pourtant, l'enfant, en fait, il est en train de sentir sa présence, son attention en train de diriger vers lui. Et cette possibilité, on peut faire ça consciemment, mais quand on fait inconsciemment, ça peut faire des religieux, comme des personnages qu'on a connus, comme Jésus, comme Mohamed, comme des grands personnages, parce qu'ils sont compris quelque chose, mais ils ne peuvent pas expliquer ça avec leurs mots plus aptes, donc ils vont mettre des images. Quelquefois, ils ont dit, oui, Dieu m'a parlé, les anges qui sont arrivés, etc. Après, ça crée des chaos dans la société, parce que quand même, ils sont porteurs de certaines vibrations assez rares. Donc nous pouvons, en fait, chacun de nous, on a cette possibilité, c'est un simple choix. Simple choix, ça veut dire, vous pouvez écouter mes paroles et vous pouvez écouter les vibrations que j'avais faites à votre oreille. Donc il y a deux choses, en fait. Il y a le son que je produis et le sens que vous avez donné à mes paroles. Le sens que vous avez donné, c'est à vous, c'est personnel à vous. Mais par contre, la vibration, c'est vrai. J'avais créé dans l'air. Donc en fait, on a toujours cette possibilité d'avoir soit la sensation ou l'interprétation. La sensation, c'est vrai, l'interprétation, c'est personnel. Vous pouvez manger une pomme, mais vous pouvez dire, je suis en train de manger une pomme. En fait, non, vous êtes en train de sentir certaines sensations dans la langue, dans la bouche. Donc, toutes les interprétations, vous pouvez dire, ah, ça c'est crémeux, c'est juteux, c'est bon, c'est pas bon, c'est rouge, c'est vert, c'est jaune. Tout ça, c'est une interprétation, des descriptions. Donc, on peut quitter. Pas définitivement, on peut quitter pour ressentir autre chose. Qu'est-ce que c'est cette autre chose? Autre chose, c'est l'existence. L'être. C'est tellement simple. Et souvent on dit le samadhi et tout ça, c'est compliqué, c'est rare, c'est difficile. Mais en fait, c'est très facile, c'est spontané. Mais il faut pouvoir choisir. Observez quelle importance que vous donnez au nom de la personne que vous êtes en face. Est-ce que vous voyez exactement? C'est-à-dire, si vous me regardez, qu'est-ce que vous voyez? C'est tout simplement des couleurs. Immédiatement, nous sommes dans un autre monde, en fait. Donc, c'est ça, le yoga cherche à distinguer les différentes possibilités. Tout ce que nous projetons, il faut apprendre à distinguer. Est-ce que ce que je vois, est-ce que c'est ma projection ou bien c'est l'ensemble des sensations plus une projection. Souvent, c'est comme ça. Donc, en fait, on voit un amalgame entre l'objectif et le subjectif. Donc, c'est la réalité personnelle. Donc, cette réalité personnelle, pourquoi nous sommes en train d'interroger? C'est parce que ça peut nous faire souffrir. Quand on regarde le pourcentage d'objectivité qui nous fait souffrir, de subjectivité, c'est quand même étonnant. C'est 99% de souffrance, c'est parce que nous avons projeté quelque chose. Ce n'est pas forcément extérieur. Même si vous êtes en champ de bataille, il y a plein de choses, il y a des gens qui sont en train de mourir. Même là, les véritables sensations sensorielles, si on reste à l'écoute des véritables sensations sensorielles, il y a la paix. Même dans son champ de bataille, il y a la paix. Ça, bien sûr, vous pouvez expérimenter ça dans des moments de difficulté. Donc souvent on dit, quand vous souffrez, portez l'attention sur le souffle, respirez un peu. En fait, attendez pas pour que les problèmes arrivent, ou les moments de stress arrivent, mais démarrez déjà tout de suite cette habitude de distinguer entre ce qui est et ce que je projette. Donc les projections, cette habitude de projeter quelque chose, on appelle Maya. Maya, c'est un mot sanskrit qui explique comment ça se passe. Donc Maya, c'est une tendance chez nous, chez les êtres humains, beaucoup plus prononcée que les autres animaux. Ils ont aussi leur propre projection. Par exemple, j'avais une vache à la maison et je donnais toujours quelque chose à boire dans un seau orange. Et un jour, je n'ai pas trouvé le seau orange, j'ai trouvé un verre. Mais la vache a refusé de boire. Donc, on pouvait expérimenter ça. C'est-à-dire, on a un ensemble de sensations, on a l'habitude de le sentir. C'est quelquefois, j'ai connu même les personnes, certaines personnes n'arrivent pas à dormir sur leur lit si le drap est rouge, par exemple. Vous voyez, c'est certains conditionnements qui peuvent nous mettre dans certains états. Donc c'est très important. C'est très important de savoir le processus du Maya. Maya fait deux choses. Première chose, il va cacher ce qui est. Et deuxième chose, il va projeter autre chose à la place. Mais c'est tout le temps. Donc nous vivons tout le temps dans cette influence de Maya. C'est à identifier, donc Maya c'est un principe qui touche à tous les individus. Tous les individus. C'est commun. Même si chez les Papous, chez les Amérindiens, chez les Inuits, chez les Américains, c'est Maya est présent. Donc ça, c'est l'universalité du Maya. Quand on dit le ciel est bleu, et partout c'est bleu, tout le monde dit c'est bleu. Donc ça c'est universel. Mais par contre, individuellement, le même principe général, cosmique ou universel est présent. Là, on va donner un autre nom, on appelle avidya. Avidya. Souvent, on le traduit comme ignorance. Avidya. Avidya. Donc, c'est un mot à apprendre. Avidya. A, c'est négation. Vidya, la négation de vidya. Donc, il faut comprendre ce que c'est vidya. Vidya, ça veut dire ce qui est. Ou le savoir ou le méthode qui nous amène vers ce qui est. Donc, vidya, c'est la connaissance de soi. Donc le yoga c'est vidya, yoga vidya. Ça veut dire c'est tout ce que nous sommes en train d'apprendre, ça nous amène à une meilleure appréciation de soi, meilleure connaissance de soi. Donc tout ce qui nous aide pour cette prise de conscience de soi au-delà de l'apparence physique, au-delà de notre passé, au-delà de nos émotions, au-delà de nos croyances, au-delà de nos pensées. C'est vidya. Donc, c'est un mot très, très important parce que c'est pas affirmé dans notre vie. C'est équivalent au mot grec, c'est logos. Malgré que plus tard, si on commence à utiliser ce mot, logos, pour tout autre sujet, biologie, zoologie, c'est psychologie, c'est toujours logos, on a ajouté le logos pour les sciences qui n'est pas concernées par rapport à la connaissance de soi. Donc ça c'est une éventualité. à l'origine, toute connaissance, c'est la connaissance de soi. C'était la curiosité, c'est qui suis-je ? Donc c'est connais-toi toi-même. Donc ça, si vous connaissez très bien cette affirmation, c'est l'importance, c'est la connaissance de soi. Cette connaissance de soi, à certaines heures, profit, ça peut changer notre vie. C'est pour ça que c'est intéressant. Et c'est pour ça, d'ailleurs, consciemment, dans notre éducation, notre système d'éducation, c'est enlevé. C'est consciemment, c'est enlevé. Donc, vous n'imaginez pas, parce qu'ils sont ignorants, nos dirigeants, c'est enlevé consciemment parce que ça va nous amener vers plus de sensations de liberté. Donc, il y a une volonté pour que les gens ne se libèrent pas. Il y a une volonté. Parce que si tout le monde se réveille, dans ces cas, on ne peut plus diriger rien. Personne. On ne peut pas être meneur. On ne peut pas diriger les gens vers certaines directions. Donc, ce que nous sommes en train d'entreprendre, c'est pour aller mieux, derrière moi. C'est parce que la liberté, l'indépendance, c'est notre droit, c'est notre nature de l'être. Donc en fait, on est en train de se froisser, on est en train de se faire du mal parce qu'on imagine qu'on n'est pas libre. Donc c'est plus que je me dis, je ne suis pas libre, je ne suis pas bien, c'est après, à l'intérieur, nous sommes en train de se défigurer notre propre image véritable. Donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre le mouvement de Maya. Maya, si nous sommes dans le monde de Maya, ça veut dire on ne regarde pas ce qui est vraiment mis à la place, on projette quelque chose parce qu'on a lu un article, on a écouté quelque chose à la télévision. En fait, nous sommes profondément influencés, et pas seulement influencés. Notre conscience est sans cesse bombardée par des informations qu'on n'a pas cherchées. Donc, ça fait beaucoup de bien se mettre sur le tapis et écouter le souffle, écouter les sensations. Là, on ne se trompe pas parce que ça, c'est des informations véritables. Je suis assis, je sens le sol, la stabilité de la terre, je sens la sensation de respiration, etc. Donc le corps génère une connaissance, le corps génère des expériences. C'est continuellement en train de générer. Donc les cinq sens sans cesse en train de produire des sensations du premier main. Mais quand vous trouvez dans un bouquin, quand vous écoutez quelqu'un qui raconte, quand vous écoutez la radio, la télévision, ça c'est des informations de deuxième main. C'est plus frais. Ça n'a pas beaucoup d'importance parce que c'est conditionné, ça a été vécu par quelqu'un d'autre, c'est des récits. Mais quand on écoute nos sens, les cinq sens, ça c'est du premier main. Mais il faut écouter sans qu'il y ait la projection. Donc s'il y a la projection, là, on n'est plus en contact avec la vie. Je regarde ça et puis je dis c'est un mur. Donc en fait, quand je dis aussitôt que c'est le mur, j'ai fermé la possibilité de rester en contact vivant avec cette sensation visuelle parce que j'ai conclu. Oui, c'est un mur, ça ne bouge pas et de toute façon, ça n'a pas d'importance. Pourtant, c'est très important si ça bouge. Vous comprenez, c'est chaque mot nous empêche de rester dans la perception. Aussitôt nommé, aussitôt on a nié l'existence on va dire, oui, je connais la personne, donc, parce que je connais son nom. En fait, c'est rien. Vous comprenez, c'est notre science, c'est comme ça. Aussitôt nommé, c'est fini, on dit que c'est, je connais. Regarde les feuilles, c'est vert, donc on est très curieux de savoir ce que c'est le couleur, ça vient de quoi, si on dit c'est chlorophylle. Aussitôt on dit c'est chlorophylle, donc on dit que c'est ça y est, j'ai compris, ça, c'est le chlorophylle qu'on voit. Mais en fait, ça ne veut rien dire. On a mis un mot, c'est tout, c'est rien de plus. Et cette habitude continue aussi à l'hôpital, donc le médecin qui nomme, aussitôt qu'on a nommé, c'est fini, donc dit que je sais. Et en fait, je ne sais rien. Je sais très peu. Donc les mots, en tout cas dans ce contexte de connaissance de soi, c'est une barrière malgré qu'on est en train d'utiliser le mot. Parce qu'on n'a pas d'autre moyen. Pour le moment. C'est-à-dire, d'abord, c'est comme le comme l'antivénin, donc c'est fabriqué avec les vénins, donc c'est avec les mots quand même qu'on cherche à sortir du monde. Mais une partie, mais bien sûr, c'est pour s'initier à cette connaissance, donc on a besoin d'abord utiliser les mots, c'est pour ça qu'on a des bouquins comme ça, Yoga Sutra, mais quand même, on minimise les mots. Comme on dit souvent, une pratique, c'est beaucoup plus important qu'une tonne de théorie. Donc aussi, les mots peuvent être très puissants si ça nous aide à sortir de l'emprise du mot. Donc, au premier klesha, donc aujourd'hui, ce matin, nous allons aborder les obstacles, les afflictions qui nous empêchent d'être nous-mêmes, en fait. Donc, c'est le premier, c'est ignorance, avidya. Avidya, c'est ignorer. Qu'est-ce qu'on ignore ? On ignore rien d'autre que soi. Rien d'autre que soi. Répétez encore et encore. On s'ignore. Mais cette ignorance, c'est parce qu'on est préoccupé par autre priorité. J'ai besoin de manger, donc je me préoccupe par rapport à mes besoins alimentaires et autres. Donc c'est. Et souvent on dit, bon, je ne peux pas pratiquer le yoga parce que je n'ai pas de temps. Mais qu'est-ce que vous faites avec votre temps? Je dois travailler. Le travail prend vraiment beaucoup d'espace dans notre vie. N'attendez pas pour être à la retraite pour s'investir au yoga. Donc c'est comme la guérison. Donc avant que le problème aggrave, avant que ça devienne très chronique, donc commencez le plus tôt possible. Aussitôt, vous avez compris que ça s'accumule en fait, c'est l'ignorance, ça s'accumule parce que ça devient une habitude de m'oublier quoi. En fait. Donc c'est quand on néglige nous-mêmes, qu'est-ce qu'on néglige ? On néglige notre corps, on néglige notre véritable statut dans l'univers, on néglige, on est des enfants de cet univers, on néglige que nous sommes le produit des milliards d'années d'évolution, on néglige la sagesse imbriquée dans notre corps, dans notre psychisme, on néglige tout quoi, en fait, notre dignité, on néglige. Cette négligence, c'est mortel pour l'humanité tout entier, parce que c'est quand je ne sais pas qui suis-je, je vais me prendre pour quelqu'un, et ça c'est l'ego. Donc hier on m'a demandé de parler de l'ego. Donc, prévu en fait la discussion sur ego. Qu'est-ce que c'est l'ego? C'est quand je ne sais pas qui suis-je, je suis quand même obligé de porter une identité pour des relations, pour avoir une vie sociale. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle le monde. Le monde, c'est rien d'autre que le monde de l'être humain où il y a des relations. Donc, quand il y a des relations entre deux individus, donc on est devenu deux individus, deux entités basées sur le corps. Donc, s'il n'y a pas le corps, on n'en parle plus. Donc, beaucoup de gens ont perdu leur corps. Oui ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont vivants sur Terre. Je n'en parle plus. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et ça veut dire le corps est notre type de relation. Et c'est parce que cet outil de relation est tactile, palpable, visible, on donne énormément d'importance. Mais c'est vrai, il y a beaucoup d'importance. Mais cet appareil ne peut pas exister sans le reste. C'est-à-dire, on fait une séparation entre le corps et le reste de l'univers. Aussitôt qu'on a créé cette séparation, on a donné le fondement pour la création d'une identité. Donc cette identité qu'on a créée par rapport à l'origine du corps, par rapport à la naissance. Donc j'imagine que vous faites votre anniversaire. Oui, tout le monde fête l'anniversaire. Les yogis ne peuvent pas fêter l'anniversaire parce qu'il est Gémené. Il ne voit pas beaucoup de différence entre sortir du ventre ou rester dedans. C'est un peu comme si on disait je fête le sorti. Mais ça, c'est beaucoup plus intéressant. C'est plus vrai parce que j'ai existé avant la naissance. Donc, c'est, en fait, la naissance, il n'y a pas de naissance, il n'y a que le sorti. Mais vous pouvez certainement fêter la sortie du ventre. Vous pouvez fêter un peu plus intéressant, c'est entrer dans le ventre. Donc le jour, le moment de la conception, c'est beaucoup plus intéressant. Parce qu'on n'est pas très sûr, n'est-ce pas? En fait, c'est pas vrai encore, parce que avant même la conception, on existait. C'est pour ça que la naissance, donc en bas, marquer la date de naissance dans la carte d'identité. Donc on va démarrer la vie. Donc si on a démarré, on va le terminer. C'est ça le problème. Donc l'ego a un point de but. Aussitôt qu'on a dit essayer de commencer à vivre, donc nous sommes pris au piège de la mort. Après, ça devient vrai, quoi. Donc, c'est-à-dire toute la peur qui va naître parce que c'est pas vrai. On va imposer une vérité qui n'est pas. Et donc, il y a un conflit, c'est un conflit intérieur de notre âme. Et on va le nommer comme peur de la mort. En fait, dire un principe qui n'est rien d'autre que éternel, donc on dit, bon, un enfant qui va entendre, chaque fois, oui, tu es né ou tel jour. Si on était un enfant, hein, donc c'est un enfant, quand il rentre dans cette construction d'une identité fictive, donc, tout ce qui est construit se déconstruit. Donc l'ego, c'est une construction. C'est une construction basée sur des désinformations. Ce premier des informations, c'est la date de naissance, le lieu de naissance, et également l'appartenance. Mon père, ma mère, me regardez, qui est notre vrai, véritable père et mère. C'est comme un enfant qui disait que l'eau, d'où vient? C'est le robinet qui me donne de l'eau. N'est-ce pas? Parce que ça, c'est la vérité visible. Est-ce qu'on peut adorer le robinet, parce que c'est le robinet qui me donne de l'eau, de la vie, tout ça. Est-ce que ça, c'est un peu absurde, parce que c'est un peu comme ça. On donne énormément d'importance à notre parent. Pourtant, le vrai parent, c'est l'univers tout entier. Donc, apprécier, re-apprécier que nous sommes un enfant d'univers. Là, les choses changent. Notre gratitude s'ouvre si on est plus proche de la vérité. C'est pas, il n'y a pas de non-respect vis-à-vis de nos parents, bien sûr, ils travaillaient, ils nous ont élevés, tout ça, c'est vrai, mais nous sommes dans une autre dimension, dans une autre ouverture. Donc c'est important dans cette prise de conscience. Donc, qu'est-ce qu'on doit beaucoup à l'univers, beaucoup plus qu'à notre part. Donc, regardez notre responsabilité. Vous savez, de cet univers, c'est beaucoup plus grand. Donc, regardez le soleil qui nous donne de la vie. Donc, maintenant, on peut regarder ou apprécier le monde différemment. Donc, cette identité fictive a certaines difficultés. Premièrement, c'est faux. C'est qu'un masque. Donc, on a besoin de comprendre comment je construis. Donc, pour la construction de l'ego, pour un masque, une idée de soi, on a besoin de s'identifier à notre image de soi que parce qu'on a oublié, donc ignorance de soi. Donc ça va ensemble, c'est un énergie tandem, donc ça va ensemble. En fait. D'abord, je dois me rejeter moi-même pour adhérer à une autre image. Donc vous comprenez l'agression qu'on subit. Notre cœur subit une agression. Donc, on est sans cesse en train d'agresser nous-mêmes. D'abord, on s'est nié nous-mêmes. Et comme ça se fait partout, donc on n'est pas étonné. C'est la règle. Quoi. Donc, c'est comme on a une histoire comme ça. Il y a un monde. Je ne rappelle plus cette histoire. Un monde, tout le monde est aveugle. Donc, les enfants qui arrivent dans ce monde, on fait crever les yeux pour être. C'est un peu comme dans certaines régions, on fait des modifications dans le corps pour appartenir au groupe. Donc, c'est pas une circoncision, mais c'est crever les yeux. Donc, un homme qui se perd dans cette communauté et puis tombe amoureux d'une fille. Après, c'est le problème, c'est pour marier avec elle, on est obligé de faire cette initiation, c'est crever les yeux. Et il a choisi de garder ses yeux. Donc ça, c'est une histoire. Et c'est pareil, donc ça c'est notre histoire, parce que pour entrer dans le monde des êtres humains, on a besoin de se nier. Nier notre identité véritable, nier notre spiritualité innée, nier notre dignité de l'âme. Donc aussi. Et cette adhésion ne se fait pas sans souffrance. Donc chaque enfant pleure. Nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert pour quitter. Donc on est devenu raisonnable, vivable comme les autres, petit, limité. Donc ça, c'est le microcosme. C'est la fragmentation. Donc on a souffert. On a quitté cette omniscience, on a quitté notre divinité véritable, on est devenu profane. Donc, c'est que imaginaire. Donc, on n'a pas besoin de penser que si on a perdu notre vérité, on n'a pas perdu, on ne peut pas le perdre parce que c'est notre vérité, mais on peut imaginer qu'on a perdu. Donc, cette imagination qu'on appelle avidya, que je ne sais pas qui suis-je. C'est encore fiction, hein. Je ne sais pas qui suis-je. Donc l'absence de connaissance de soi, c'est aussi une fiction. Et à la place, on se prend pour quelqu'un, une image de soi, qu'on n'est pas d'accord, donc on fait des développements personnels sans cesse. On essaie de s'améliorer. Quelquefois, on paye des stages. Ça, c'est le deuxième obstacle, c'est notre affliction. Donc, première affliction, c'est ignorance. Deuxième affliction, c'est ego, image de soi. On crée une image de soi à travers le corps, à travers le passé, à travers tous nos désirs, toutes nos ambitions, tous nos projets. Et aussitôt qu'on a fabriqué une image, on est coupé de la joie spontanée et nous sommes en train de courir pour être heureux. Donc ça, c'est le troisième obstacle, la troisième affliction, c'est attraction. Nous sommes attirés par quelque chose. Donc, raga, c'est des sensations sensorielles agréables. Quand on vit, ça laisse mémoire. Cette mémoire, c'est une souffrance. Parce que j'ai vécu quelque chose d'agréable, très agréable, mais c'est vécu, c'est fini. Et après, je vois l'absence. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est une affliction. C'est pas, la jouissance, c'est pas une affliction. Vous avez un fruit, vous adorez beaucoup, vous mangez, c'est super, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est après. Il n'y a plus de fruit. Donc, on va voir l'absence. Cette absence est une souffrance. La bosse, c'est beau, on monte, mais après il y a le creux, c'est normal, l'absence. Donc absence va provoquer une quatrième affliction, c'est aversion. Et c'est ce que je dis, c'est tout le temps on est en train de vivre. Quoi. Donc j'ai eu une histoire d'amour fabuleuse, mais après ça me fait souffrir parce que ça part, ça s'en va, le plaisir. Et donc, cette absence de la joie qui va m'empêcher de vivre d'autres expériences. Donc, on devient de plus en plus blindé. Donc, ça, c'est aversion. Ce n'est pas uniquement pour une expérience de relation amoureuse, mais c'est dans toutes les expériences. C'est comme ça. C'est attraction, aversion, mais ça fonctionne avec l'ego. L'ego, c'est l'axe. Donc, c'est comme un ciseau au milieu. Il y a un pivot qui ne coupe pas, mais par contre, ça permet ce fonctionnement de deux parties. Fonctionne. Parce que c'est aversion, attraction, fonctionne autour de l'ego. Donc, c'est quand l'ego est absent, et attraction, aversion, ça n'existe pas. Donc, regardez l'idée de l'ego, mais à la fois, ça aide à fonctionner, mais dans le mauvais sens. Donc, on peut fonctionner sans ego. Donc, ça suffit de mettre le vrai sens de soi. Et on peut fonctionner beaucoup mieux. Donc, ça veut dire, la connaissance de soi va remplacer le masque, en fait. Donc, on va lâcher le masque, on va prendre le vrai visage à la place. Et là, les choses sont différentes parce que notre véritable identité, c'est cosmique. Donc, je ne suis pas une entité séparée du reste du monde. Je suis le tout. Donc, si c'est le tout, toute expérience devient un embellissement de l'être. Je mange une mangue, un fruit, c'est super. Mais en fait, c'est mon iPhone parle de ça.
Il cherche qui il est.
Vous avez compris, les afflictions, c'est ça. Donc, on a besoin de guérir ces afflictions. Donc, la guérison, la méthode de guérison, c'est yoga. Donc le yoga, c'est identifier les causes de souffrance et qui donne les solutions. C'est presque comme la médecine de l'âme. c'est la médecine de l'âme. Mais on ne le regarde pas comme ça, on regarde comme un art de vivre. Parce que si on regarde le yoga comme la médecine de l'âme, ça affirme qu'on est malade. Donc on n'est pas malade, donc c'est pour ça qu'on n'utilise pas ce terme. Yoga est thérapeutique, mais on va apprécier le yoga comme un chemin de vie. On avait vu les quatre afflictions et le reste, le cinquième. Et le cinquième, on appelle attachement à la vie. Mais c'est une traduction qui est erronée. Mais c'est bien l'attachement à la vie, n'est-ce pas? On aime la vie, on s'attache à la vie. C'est beau. Où il y a un problème? On ne peut pas aimer la mort. Aimer la vie qui est dans notre corps, autour de nous. Donc la traduction n'est pas exacte. Apinivesh, le mot sanskrit c'est apinivesh. Apinivesh, ça veut dire on est sans cesse, donc l'ego, donc, je suis attiré et en même temps je suis dans le rejet de quelque chose. Donc nous sommes sans cesse tiraillés. Sans cesse tiraillés. Tout le monde est sans cesse tiraillé. La société ou l'individu, sans cesse tiraillé. Ça se vit si on écoute vraiment du près ce qui se passe à l'intérieur. Même si vous achetez quelque chose, on est tiraillé parce que le prix, la qualité, regardez pour faciliter dans des supermarchés, maintenant on a des carrés. Meilleure qualité au prix. C'est-à-dire on est en train d'être assisté même par le vendeur. Mais vous ne tracassez pas, regardez là, le rouge, le petit carré, donc vous prenez ça, vous pouvez partir très vite. Donc, pas la peine de chercher à réfléchir. Donc, les tiraillements sont sans cesse, quelquefois. C'est plus visible. Imaginez quelqu'un vous demande un mariage, donc c'est assez compliqué. On est tiraillé. Il y a des situations de choix, vous voulez acheter une maison, on est tiraillé. C'est en fonction de l'importance de la décision et tout ce qui est impliqué par rapport à la prise de décision, on est tiraillé. Quelquefois, on est tiraillé par rapport aux valeurs que nous adorons, le travail que nous devons le faire par rapport à la nécessité de la vie. Donc, on est tiraillé. Donc, le tiraillement, c'est notre nature. L'être humain, c'est partout tiraillé, sans cesse. C'est une agitation. Donc cette agitation se manifeste comme les vrittis, on avait abordé ça hier. Mais si à un moment donné le destin qui nous dit ok, vous allez mourir monsieur, madame, donc ça sera bien pour vous parce que vous êtes dans une telle agitation, mais on ne veut pas que ça s'arrête. On ne veut pas quitter cette habitude, même si ça nous fait souffrir, on ne veut pas quitter. Donc ça c'est assez particulier comme comportement. C'est-à-dire, il y a une force qui nous empêche de cheminer dans le yoga. Donc, c'est-à-dire, vous allez vous asseoir, immédiatement, aussitôt qu'on est tranquille de 1000 pensées qui nous arrivent, pour nous empêcher d'être tranquille. Vous avez remarqué ça, hein? Quand on est en train de courir, ça va, mais si on arrête, la pensée démarre. Donc, souvent, le travail devient le plus grand de divertissement. Quelquefois, on est bien pendant le travail, parce que on est paix, on est en paix. Parce que pendant ce travail-là, je ne me préoccupe pas de mes questionnements existentiels. Mais le souci, c'est un jour qu'on est obligé d'arrêter de travailler. Comprenez ? Un jour, on doit s'arrêter de travailler. Donc là, ça fait peur. Beaucoup de gens meurent très vite après la retraite. Est-ce vrai ça, docteur ? Donc arrêtez pas de travailler. Ou travaillez sur soi. Je vous invite de travailler sur soi. Continuez dans cette recherche de soi. Mais ça ne touche pas tout le monde. Hein. Je sais que beaucoup de gens, c'est une libération, arrêter de travailler, ils ont de l'argent, ils font plein de choses intéressantes. C'est pas pour tout le monde. Hein. C'est quelquefois arrêt brutal d'une activité qu'on avait fait pendant 40 ans, par exemple, immédiatement. Ça pose des difficultés physiologiques et quelquefois psychologiques. Donc, le cinquième affliction, c'est apinivesha. Ça veut dire on ne veut pas quitter ce trouble. Si vous avez vu le film Bagdad Café, un jour l'Allemande a nettoyé le bordel qui était là, mais en fait, c'est troublé. Elle vivait avec le bordel, donc ça lui est. En fait. Si un beau matin on se retrouve sans aucun problème, ça c'est un problème. Donc les cinq afflictions, donc on appelle les kleshas, ignorance de soi, égoïsme, une fausse identité, attraction, aversion et cet désir de continuer dans le problématique, donc sont nos obstacles donc, à identifier. Et puis cet après-midi, je vais vous parler quels sont les moyens pour s'en sortir. Et rester dans cette ambiance de réflexion, de l'introspection. Donc nous allons arrêter maintenant. Il est 12h30. Nous allons reprendre à 14h, tu vois ?
Oui. Juste, le dernier, tu ne le définis pas comme la peur. Souvent dans les textes, on parle plus de peur que de non vouloir quitter ce qui nous plaît. Ça va ensemble, oui.
La peur, c'est une expérience que j'avais parlé. La peur, c'est quand on colle une réalité sur une autre. Donc je suis éternel, d'accord ? Parce que mon être, c'est sans commencement, donc c'est sans fin. Ça, c'est une vérité. Mais sur cette vérité, on va coller un mensonge. Et quand ce mensonge était appliqué sur soi, là, ça provoque la peur. C'est une sensation. C'est une sensation de la disparition. Qui n'a pas la place. Jamais la disparition. Le corps est recyclé aussi. Donc, rien n'est perdu. Donc, l'être que nous sommes, c'est sans commencement, donc c'est sans fin. Mais ça, c'est une vérité qui n'est pas affirmée. À la place, on va affirmer une autre vérité qui est fausse. Et ça provoque une sensation. Cette sensation s'appelle la peur. Mais je ne parle pas de la peur physiologique. Si vous avez le vertige, vous montez sur quelque chose, vous mettez dans une situation de danger, il y a une sensation de peur. Je parle de la peur psychologique. Ici, apinivesha, c'est peut-être on ne quitte pas ce fonctionnement parce qu'on a peur de perdre tout leur repère, mais c'est la cause même de la création de la tradition. Tradition, c'est la répétition. Donc, apinivesha, c'est beau. Tout le monde n'est pas aventurier, en fait. On veut continuer dans la route. C'est comme ça, c'est depuis beaucoup d'années, on fait ça, c'est depuis des siècles. C'est rodé, donc on va suivre comme le mouton. Donc, on va suivre le chemin déjà tracé. Donc il n'y a pas d'aventure dedans. Il n'y a pas de sensation d'aventure. On dit, c'est comme ça, donc j'ai fait. Donc ça, c'est un obstacle. Donc si on est par la facilité, on fait comme les autres, là, ça nous empêche de réfléchir. Donc un petit peu d'esprit de rebelle est nécessaire pour le chemin du yoga. Si on n'est pas rebelle, on ne se met pas sur le tapis. Cette non-rébellion, c'est ça le happiness. Continuez à réfléchir. Nous allons discuter après le repas à 14h. On va se retrouver. Donc d'abord réflexion, après la pratique, parce que pendant la méditation, on ne peut pas faire des postures. C'est pour ça.